Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Sporama sur VO Afrique. Comme chaque semaine dans cette émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler en direct. Vous composez le 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Je vous interromps. Premier but du Japon, le Japon qui ouvre le score. Ah, c'est quelque chose dans ce huitième de finale, une place en quart de finale pour affronter le Mexique et le Japon qui vient d'ouvrir le score à l'instant, retour des vestiaires. On va en parler dans quelques secondes. Exploit pour le moment des Japonais, on va en reparler. On va prendre évidemment nos intervenants ce soir. On va d'abord saluer Jules Valentingo et à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer Élisée Mpatina-Boïkon, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Voilà, je le disais, hein, cette ouverture du score, on suit bien évidemment les huitièmes de finale ce soir sur évidemment VOA Afrique. Le Brésil, un peu plus tôt dans la journée, a battu 2-0 le Mexique pour se qualifier en quart de finale. Début de Neymar et Firmino qui ont permis à la Seleção de se qualifier sans embûche malgré 20 premières minutes difficiles. On va prendre la direction du Gabon, retrouver Jules Valentin Gouet. Jules Valentin, le Brésil a fait le métier, a fait le dos rond, un début de match un peu difficile à l'avantage des Mexicains et petit à petit, le Brésil qui a refait surface pour s'imposer logiquement sur ce match. Hein.
Oui, c'était prévisible. Le scénario du match a été parfaitement respecté. Ils ont d'abord voulu sortir de leur dispositif défensif et finalement, ils ont un peu pousser les Mexicains à la faute, c'est-à-dire à la fatigue. Et donc, pendant leur temps faible, ils ont été pris à la gorge. Finalement, ils ont cédé en deuxième mi-temps, surtout lorsque le Brésil a bien repositionné. Et Williams, qui était esselé sur le flanc droit, il est revenu et c'est un formidable remonteur de ballon. Il a permis donc de saborder la défense mexicaine.
Merci beaucoup. On va retourner retrouver bien évidemment Élisée Mpatina. Élisée, pour le moment, grosse surprise, les Japonais qui viennent d'ouvrir le score. Ce serait un gros cataclysme si la Belgique, qui a dominé outrageusement la première mi-temps, se faisait éliminer. Hein.
Oui, bien évidemment, hein, parce que on les mettait déjà parmi les favoris. C'était des grands outsiders en ce temps, mais actuellement, la Belgique fait partie des grands favoris de cette Coupe du Monde aujourd'hui. Nous sommes en train d'assister à un match où les données sont en train d'être changées, notamment les Japonais qui se sont bien battus en première partie, malgré la domination des Belges qui n'ont pas beaucoup inquiété cette défense japonaise. Bien en place avec beaucoup de combativité, surtout au milieu de terrain. Et les Japonais sont en train de déjouer les pronostics puisque là, ils sont en train de mener le score ouverture. Logique, hein, au vu de ce qu'on a vu en première partie, c'est que les Japonais ont joué en équipe et ils se sont aussi procurés de très belles occasions, hein, même si côté belge, on a vu aussi Hazard sur la première frappe de la rencontre, le parcours qui aurait pu marquer. Et le premier but de cette rencontre, mais les Japonais aussi ont joué avec les chances et ça a marché aujourd'hui. Et ce qui se passe actuellement, ce serait catastrophique si les Belges, une fois encore, se font éliminer en huitième de finale, comme ce fut le cas il y a 4 ans au Brésil.
Et à l'instant, hein, Eden Hazard hein, qui a tiré sur le poteau gauche des buts japonais. Mais pour le moment, ça ne rentre pas pour la Belgique qui, pour le moment, serait éliminée. Moi, j'ai toujours eu des difficultés avec la Belgique. Hein. C'est vrai que souvent, ils sont annoncés favoris dans les compétitions et souvent, ils s'écroulent. Ils n'arrivent pas vraiment à aller au bout et en tout cas accéder au dernier carré. En tout cas, ça confirmerait ma prédiction si malheureusement ce score se confirmait pour les Belges. En tout cas, il va suivre ça. Il reste 40 minutes de jeu en Russie. La Belgique, pour le moment, je le disais, qui est dominée 1-0 par les Japonais. Allez, on va parler à présent, bien évidemment, de l'absence de pays africains pour ces huitièmes de finale. Ça ne s'était pas vu depuis 1982, si je ne m'abuse. Et le deuxième but des Japonais, incroyable, incroyable, en direct sur VOA Afrique. Le deuxième but des Japonais. Oh là là, ça sent pas bon du tout pour la Belgique. On va reprendre cette émission en cours, mais je le disais, le Japon qui mène maintenant 2-0. Jules Valentin, pour le moment, les Diables Rouges sont écartés de cette compétition. Incroyable, incroyable équipe du Japon. C'est rafraîchissant aussi hein, d'avoir une équipe un peu différente de ces grosses équipes européennes souvent. Incroyable, mais deuxième but pour le moment, les Nippons qui sont qualifiés. Difficile pour la Belgique, hein, Jules Valentin.
Difficile pour la Belgique qui a accepté de subir le style de jeu des Japonais qui jouent sur des très courtes passes. Ils ne sont pas grands de taille, donc ils ont ramené la balle au sol et finalement la puissance des Belges, habituelle des Belges, est devenue relativement émoussée. Et ensuite, on sait que ces grosses équipes européennes ou sud-américaines sont constituées de joueurs qui sont éparpillés dans tous les championnats européens. Finalement, c'est leur club qui en profite, mais l'équipe nationale a moins d'homogénéité. Donc, avoir des grands noms, ce n'est pas automatiquement avoir une très grande équipe.
Merci beaucoup, Jules. Valentin, je rappelle, hein, c'était surprenant, mais pour le moment, 2-0. Hein, c'est Inui qui a inscrit le deuxième but. On fait signe qu'on a un premier auditeur qui nous appelle. Bonsoir. Kossana, bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas Pino.
Comment allez-vous?
Vous-même.
Ben écoutez, on fait aller, merci beaucoup. Alors, on le disait, absence d'équipe africaine sur la seconde partie du tournoi. On a beaucoup parlé d'arbitrage. Est-ce que selon vous, les erreurs d'arbitrage expliquent en grande partie l'absence de l'Afrique en seconde partie de compétition?
Oui, justement. Et moi, je reviens surtout sur le match du Nigeria et du Sénégal. Ah, ces deux équipes qui sont vraiment compétitives, ils étaient victimes de surtout l'arbitrage qui a fait que le Nigeria et le Sénégal n'ont pas atteint 8e de finale. Donc, c'est l'injustice, quoi. Surtout, moi, c'est que les pénalties n'ont sifflé et puis, bon, des trucs comme ça fait que le Nigeria et le Sénégal n'ont pas pu arriver au 8e de finale. Donc, moi, l'arbitrage vidéo, surtout, c'est une corruption qui ne fait pas seulement. Donc, la FIFA doit essayer de voir cette façon, sinon ça ne marche pas. Et cela nécessite aussi des réponses au niveau de nos dirigeants qui manifestent, sinon c'est vraiment inadmissible de l'injustice comme ça se passe au niveau de cette compétition, grande compétition internationale mondiale. Donc moi je pense que ce n'est pas bien. On a des talents. Quand on essaie de voir les équipes, l'équipe nationale du Sénégal, il y a des grands joueurs qui sont là. Sadio Mané avec des jeunes gens qui ont du talent. Ils méritent d'arriver au 8e de finale. Donc, moi, je pense que malgré les trois autres équipes, je vois qu'il y a un travail qui reste à faire, surtout au niveau de nos dirigeants qui doivent vraiment investir dans le football. Afin qu'on espère un jour ramener la Coupe du Monde quand même en Afrique. Sinon, avec ce qu'on voit, c'est vraiment décevant qu'aucune équipe africaine vient au 8e de finale. C'est vraiment désolant, mais on espère que les années à venir, il y aura des investissements, il y aura des changements et qu'un jour l'Afrique va aller même jusqu'au final et pourquoi pas remporter le mondial.
Inch'Allah, comme on dit à Dakar. Merci beaucoup de nous avoir appelé depuis le Tchad. On va retourner vers Élisée Oumpatine. Élisée, on le disait, est-ce qu'il n'y a pas aussi, malheureusement, cette incapacité, notamment pour le Nigeria et pour le Sénégal, de tenir un résultat? On se souvient du but, finalement, de Rojo pour les Argentins dans les ultimes minutes face au Nigeria. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, sur ces matchs-là, une difficulté à tenir le résultat?
Bien évidemment, c'est de ça qu'il s'agit, puisqu'on a vu presque toutes les équipes africaines ont encaissé au début durant les arrêts de jeu, pratiquement en toute fin de rencontre, et ça s'est révélé en défaveur du Nigeria encore face à l'Argentine. Hein. Les Nigériens pouvaient bien sûr garder ce score de l'un du passé, puisqu'ils ont épuisé au fond de leur physique pour pouvoir égaliser, puisque ce n'était pas évident. Face à cette grande équipe, c'est vrai que l'Argentine connaît déjà son apogée par rapport à certains joueurs qui sont vieillissants. Mais il faut dire que face à cette grande équipe d'Argentine, les Nigériens ont pu égaliser et il suffisait simplement de jouer le reste de la partie, d'être concentré à 100% pour pouvoir enrichir le résultat nul. Maintenant, comme le Sénégal, le Nigeria aussi, il n'a pas fait preuve et de concentration totale hein, afin de garder ce score nul pour ce qui peut lui permettre de se qualifier pour l'invitation de finale. On a vu tension immédiate de la part de Revol, le joueur de Manchester United, qui n'a presque pas joué durant cette saison. C'est d'ailleurs ce qui a fait du coup à cette équipe d'Argentine, avec des joueurs qui n'ont pas été souvent titulés dans leur club, hein, la majorité, à part les Di Maria, lui-même aussi. Donc les Nigériens n'ont pas pu garder ce score-là, pour toute concentration, et ils n'étaient pas à 100%. Mais Nicolas Fouti reconnaît que c'est un match très disputé, et la condition physique était de mise, et ça a fait que les Nigériens n'ont pas pu garder ce score et ont encaissé en toute fin de match.
Allez, merci beaucoup Élisée. On fait signe que nous sommes en ligne avec Thierry Komoundi, notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Alors Thierry, évidemment, hein, on pleure encore du côté de Kinshasa cette élimination par les Tunisiens. Les Aigles de Carthage qui sont aussi rentrés à la maison. Comment vous analysez-vous cette contre-performance africaine? Est-ce que c'est seulement des erreurs d'arbitrage?
Non, Nicolas, je pense que c'est trop facile de tout ramener aux erreurs d'arbitrage. Hein. Après avoir vu les matchs du Maroc, de l'Égypte, de la Tunisie, du Sénégal ou encore... les rencontres de toutes les équipes africaines, je pense que il y a eu beaucoup d'éléments qui sont entrés en ligne de compte, notamment la gestion des rencontres. On a parlé notamment du Sénégal hein, qui est sorti la mort dans l'âme avec sur base de ce principe de fair play avec plus de cartons pris contrairement au Japon. Mais je pense que le Sénégal pour moi a véritablement raté son élimination lors de sa rencontre face au Japon. Ce deuxième but, les Sénégalais ne devaient pas le prendre. Il y a une rigueur tactique, une rigueur dans la gestion des rencontres qui a manqué cruellement aux équipes africaines. Vous allez remarquer que lors de la première journée, par exemple, et l'Égypte, et le Maroc, et la Tunisie ont pris des buts dans les 5 dernières minutes de la rencontre. Ça veut tout dire. Hein. C'est des éléments comme ça qui entrent en ligne de compte. C'est le haut niveau. Les petits détails comptent. Je pense qu'il y a eu, c'est vrai, sur le match Maroc-Espagne, par exemple, il y a eu des erreurs d'arbitrage. On l'a tous décrié. Mais il ne faut pas tout ramener à l'arbitrage. L'Afrique a manqué également de la qualité, a manqué par moment d'inspiration, a manqué par moment... quelques éléments qui pouvaient l'amener un peu plus loin dans la compétition. L'Afrique a manqué de concentration parlant de certaines sélections, notamment du Sénégal. Donc voilà, hein, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que nous puissions nous remettre en cause au niveau du continent, que ces différentes sélections puissent se servir de ces leçons-là pour aller de l'avant. Voyez ce que le Japon est en train de faire face à la Belgique, par exemple. Ça veut tout dire hein, du niveau de cette Coupe du Monde. Vous avez longtemps parlé des équipes qui ont été éliminées, des gros qui sont sortis depuis le début de ces huitièmes de finale et même au premier tour. Donc c'est beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte en dehors de l'arbitrage.
Merci beaucoup Thierry Komoundi. Allez, on va prendre un autre appel. Mephis Kitchi qui nous appelle depuis le Bénin. Bonsoir.
Bonsoir Andréa, bonsoir à tous.
Alors vous vouliez surtout parler de la Croatie, hein, la Croatie qui a fait un brillant parcours au premier tour en éliminant notamment le Nigeria et qui a eu beaucoup de difficultés face au Danemark. Vous en faites toujours l'un des favoris de ce tournoi, pourquoi?
Oui, quand vous voyez cette équipe de la Croatie, c'est vrai que hier cette équipe a souffert face aux Danois, mais ça regorge des joueurs étincelants à la personne de Rakitic, de Modric, qui à tout moment peut faire basculer une rencontre. Donc, ils ont une défense d'enfer. Cette défense ne fait pas comme la défense de l'Argentine. Et également, au niveau du milieu de terrain, comme je l'ai dit tantôt, il y a des hommes capables de faire la différence à tout moment. En attaque, il y a Mandzukic qui, quand il est en forme, quand il trouve des occasions, il le met au fond. Donc, je me dis que cette équipe de la Croatie a de véritables chances d'aller loin dans cette compétition. Donc, par rapport au Brésil et la France, font traite de titres favorites pour le titre précédent. Je pense que cette équipe croate, je mise évidemment sur cette équipe peut faire l'affaire et pourquoi pas remporter cette compétition.
Merci beaucoup de nous avoir appelé depuis le Bénin. On va se tourner à nouveau vers Gilles Valentin. Et Gilles Valentin, le coup de tonnerre hier, et c'est encore une surprise évidemment, Lukaku qui rate un but tout fait de la tête, mais Lukaku qui ne trouve pas le cadre par long. Gilles Valentin, je le disais, l'Espagne écartée, l'Espagne champion du monde 2010, qui a eu des soucis de sélectionneur, bien évidemment, qui a été remplacé Lopetegui quelques jours seulement avant le début de la compétition. Comment vous expliquez cette sortie de route de la sélection espagnole?
Oui, mais c'est une sélection en fin de parcours, c'est la dernière ligne droite. Une génération qui est venue et qui a gagné la Coupe d'Europe.
Voilà, alors attendez, malheureusement, malheureusement, on va essayer de rétablir la connexion avec le Gabon, Gilles Valentin. On va se tourner vers Élisée Ongpatine. Élisée, je le disais, sortie de route pour les Espagnols. Comment vous expliquez finalement la fin de parcours? Et on le rappelle, Andrés Iniesta qui met un terme à sa carrière internationale.
Oui, c'était très attendu, hein, Nicolas. Et c'était très attendu de la part d'Andrés Iniesta, même si l'Espagne arrivait à remporter le mondial. Iniesta devrait normalement rendre le tablier, devrait annoncer sa retraite internationale. La contre-performance de cette équipe espagnole se situe d'abord, premièrement, au licenciement de l'entraîneur, l'actuel entraîneur du Real Madrid. De Tefezi qui avait fait toute la préparation avec la sélection espagnole. Il était là depuis près de 2 ans. Il connaît bien sûr, j'allais dire, son effectif. Et puisque c'est lui qui a sélectionné les 23 qui étaient présents, il a déjà imposé un style de jeu à cette formation. Évidemment, à quelques jours de ce mondial, on l'a viré parce qu'il a signé au Real Madrid. C'est un mauvais petit de la part du président de la Fédération espagnole de football qui devrait être bien sûr démissionné très bientôt. Et donc, voilà la première, le premier facteur du revers de cette équipe. Et ça, maintenant, secondo, le football, tout ça, très connu de tous, qui, c'est vrai qu'il ne continue pas à impressionner, mais qui n'a plus d'effet sur le football, le jeu direct. Au début, on est en train de voir, durant cette Coupe du Monde, que les équipes qui jouent le football direct sont en train de prendre le dessus. Il y a eu le Brésil, ça me rappelle même cette génération de 1994, cette équipe brésilienne qui a remporté la Coupe du Monde qui était jouée du côté des États-Unis. Et un football de jeu direct, très compact, surtout en défense du terrain. On a vu cette équipe brésilienne devenir pratiquement. Et la France également qui a un jeu qui est pratiquement un football direct, pas trop de techniciens avec des coups de passe pour ralentir le jeu. Donc, on remarque que c'est seulement ces équipes qui pratiquent le jeu direct qui sont en train de s'imposer. Le Japon, à l'image même du Japon, vous voyez, le Japon très organisé avec, sur sa première occasion, j'allais dire, les Japonais ont ouvert le score. Donc, aujourd'hui, les Belges doivent s'inspirer du football que le Japon est en train de pratiquer. Le football à protection, on est tenté de dire que c'est révolu. C'est vrai que ça a dominé en tout temps le football mondial, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Les étoiles doivent revoir leur manière de jouer pour jouer encore, pour bien encore régner sur le football mondial.
Merci beaucoup, Élisée. Allez, on va prendre un nouvel auditeur, Brahima Doumbia, qui nous appelle depuis le Mali. Bonsoir, Brahima.
Bonsoir à tous les étudiants, bonsoir à tous.
Alors, évidemment, on se projette un petit peu sur cette compétition. Qu'est-ce que vous attendez du quart de finale France-Uruguay, vous?
Surtout, j'aimerais insister sur l'élimination de l'Espagne qui, pour moi, n'est pas une surprise comme on le sait tous. Cette équipe espagnole a toujours du mal à battre une équipe du mondial ou d'une grande compétition, en quelque sorte. La Russie a fait bloc face à cette équipe espagnole. C'est vrai, la Russie n'a pas joué. La Russie a passé pratiquement... Les Russes ont passé tout le temps à défendre. Et cela a porté fruit. Et surtout, je voudrais dire chapeau à ce gardien russe qui, quand même, a su arrêter ce tir, quand même. De mon point de vue, est un héros, de mon point de vue. Et vu son âge, je pense qu'à la fin de ce mondial, il va quand même abandonner.
Voilà, liaison un peu difficile avec le Mali. Merci beaucoup, Brahima Doumbia, de nous avoir appelé. On va retrouver Gilles Valentin, Thierry Kamoundi, Top Congo FM. Thierry, on se projette évidemment, la France brillamment qualifiée face à l'Argentine contre l'Uruguay qui a fait tomber les derniers espoirs de Cristiano Ronaldo. Comment vous abordez ce match?
Voilà, ce sera un match très, très disputé. Hein. Surtout que la France est en pleine confiance avec ce match qu'elle a sorti contre, l'Argentine. Mais j'ai plutôt mal pour l'Uruguay hein, qui a été sauvé par un Edinson Cavani de grand jour. Mais malheureusement, Cavani est encore incertain sur ce match, même si la fédération uruguayenne a posté un message en communication.